Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ. Nous te louons parce qu'il est ton roi, celui que tu as envoyé dans ce monde pour nous donner un aperçu du monde à venir. Et nous te prions que nous puissions mieux comprendre qui il est et ce qu'il prépare pour nous dans l'avenir si nous lui faisons confiance maintenant. Nous t'en prions en son nom. Amen. Pouvez-vous imaginer un monde parfait? Un monde parfait, ce serait comment? Un monde parfait. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas et que nous avons dans le monde actuel? Des bouchons sur le ring, peut-être la pluie un dimanche matin. Non mais plus sérieusement, tout ce qui gâche notre vie ici-bas, la souffrance, la maladie, le stress, l'anxiété, la solitude, la mort. Sans enlever tout ça, on n'arrivera jamais à avoir un monde parfait. Et c'est un monde dont nous rêvons tous. Mais sérieusement, nous n'avons pas beaucoup d'espoir que cela puisse arriver. Ce monde dont nous rêvons tous, est-ce une réalité? Est-ce possible? Et si oui, comment? Et si oui, qui peut y vivre? Mais nous allons voir dans notre passage aujourd'hui que ce monde existe ou existera. Et chaque personne dans cette salle a la possibilité d'entrer dans ce nouveau monde un jour. Nous démarrons, comme Sylvain dit, une nouvelle série de messages dans l'évangile de Matthieu. Et nous voyons quatre choses dans ces chapitres. Si vous pouvez avoir ça en tête, quatre choses que nous allons voir, deux sur Jésus, deux sur nous. Donc nous allons voir que Jésus est vraiment le roi promis, le Messie, si vous voulez, le Christ. C'est vraiment lui. À la fin de ces chapitres, au chapitre 11, Jean-Baptiste envoie quelqu'un pour demander à Jésus, « Est-ce que tu es vraiment le Christ, le roi promis depuis tant de temps ?» Et Jésus lui répond, « Mais vous voyez et vous entendez ce qui se passe. » Les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. C'est exactement ce que nous allons voir dans les chapitres 8 et 9. Donc c'est la preuve tangible que Jésus est bel et bien le roi promis de Dieu. Première chose, Jésus est le Messie. Deuxième chose, il nous donne un aperçu du monde à venir qu'il prépare pour nous. Un monde à venir qu'il prépare pour nous. Ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Troisièmement, nous concernons, qu'est-ce que cela veut dire de suivre Jésus? Intercalé entre les épisodes de guérison, de résurrection, il y a des sections d'enseignement sur ce que ça veut dire de suivre Christ. Nous allons voir ça dès la semaine prochaine. Et quatrièmement, au chapitre 10, Jésus envoie ses disciples en mission pour proclamer ce roi, pour proclamer ce royaume. Et nous serons envoyés à notre tour si nous sommes disciples de Jésus-Christ, là où Dieu nous a placés pour annoncer cette bonne nouvelle. Mais regardons dans le passage aujourd'hui, si vous avez ça devant les yeux, ce serait super, il y a des Bibles un peu partout, merci d'en prendre. 7, 28, juste avant les versets que nous allons voir, nous voyons la fin de la section précédente, 7, 28, après que Jésus a eu achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Donc Jésus vient de terminer le serment probablement le plus célèbre dans toute l'histoire, le serment sur la montagne. Et la foule est frappée de son autorité dans ses paroles. Et maintenant, il sera frappé de nouveau par son autorité en pratique lorsqu'il guérit les gens, lorsqu'il purifie les lépreux. Et dans notre passage, Jésus guérit trois personnes, mais en fait, il guérit beaucoup plus. Et à travers ces guérisons, nous apprenons deux choses. Deux choses. La première chose, c'est seul Jésus peut créer un monde parfait. Seul Jésus peut créer un monde parfait. Dans ce passage, Jésus fait disparaître les choses qui gâchent la vie. La maladie telle que la paralysie, la fièvre, la lèpre et le mal. Et l'œuvre du diable, Jésus les fait disparaître tous. Et au verset 11 de ce chapitre, au chapitre 8, verset 11, nous voyons qu'il parle d'une réalité à venir, une réalité à venir, le royaume des cieux, verset 11. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ici, Jésus parle du monde à venir, le royaume des cieux. Un royaume où il sera lui-même souverain et où les gens de toute nationalité viendront pour se retrouver dans la présence de Dieu. Avec Abraham, Isaac et Jacob, ceux de l'Ancien Testament auxquels Dieu avait fait des promesses de grandes bénédictions pour toutes les nations. Il s'agit d'un festin glorieux dans la présence même de Dieu pour toujours. Et à travers ces miracles que Jésus fait, il nous donne un aperçu de ce royaume des cieux. À quoi ça va ressembler? J'ai essayé de penser à une illustration pour cela. J'ai pensé à la Reine des Neiges. Est-ce que vous connaissez ce film, La Reine des Neiges? C'est ce que Jésus nous donne ici durant son ministère public, c'est un peu comme la bande-annonce pour un film qui n'est pas encore sorti. Dont ma fille adore le film La Reine des Neiges, lorsque c'était carnaval. Quel déguisement elle a choisi? Elsa, bien évidemment. Et j'ai entendu que la bande-annonce est sortie pour annoncer qu'il y aura un deuxième film, Reine des Neiges 2. Je ne sais pas si vous saviez cela, mais c'est le cas. Et l'idée de la bande-annonce, c'est de nous montrer des clips de quelques-uns des meilleurs moments du film, n'est-ce pas? Pendant 2 ou 3 minutes seulement. Cela nous donne une bonne idée du contenu du film, mais ça vous laisse sur votre faim. Il faut attendre encore quelques mois avant que le film ne sorte en salle. C'est le 20 novembre en France. Je ne sais pas quand ça sera en Belgique. Et un peu à l'image de cette bande-annonce qui annonce ce qui va venir, mais qui vous fait comprendre qu'il faut attendre avant de voir le film, les miracles de Jésus dans ce chapitre sont comme la bande-annonce du nouveau monde qu'il va créer. On a envie d'y être, mais on comprend également qu'il faut attendre. Ce que Jésus a fait dans ce chapitre, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour un jour, dans la gloire. Mais peut-être que vous n'êtes pas très cinéma, ou pas très Reine des Neiges, en tout cas vous êtes plutôt du genre à faire des travaux chez vous. Vous avez peut-être un mur d'une couleur un peu moche, et vous voulez le repeindre chez vous d'une autre couleur. Mais auparavant, il faut décider la nouvelle couleur. Donc vous allez à Brico un samedi matin, erreur, parce que tous les autres Bruxellois y vont aussi le samedi matin, et vous achetez un échantillon de la couleur que vous voudrez. Vous vous dites, je n'ai pas le temps de tout peindre maintenant, mais je vais quand même choisir la couleur. Et donc vous rentrez chez vous et vous mettez à peindre un petit coin de mur pour voir ce que ça va donner. Et vous voyez, c'est beau. C'est beau. Et vous êtes très content. Vous avez une petite idée de ce que ça va donner quand vous trouverez le temps d'aller acheter un grand pot de cette couleur pour faire tout le mur. Mais pour l'instant, il faut encore attendre. Et de manière semblable, Jésus nous donne ici l'échantillon de ce qui va se passer dans le monde à venir, dans son royaume, dans le royaume des cieux. Ça donne envie, mais il faut encore attendre. Effectivement, dans ce passage, chaque personne qui souffre d'une maladie quelconque et qui s'approche de Jésus repart entièrement guérie. La première personne que nous voyons, verset 2, c'est un homme atteint de la lèpre. Relisons le verset 2. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » La lèpre dans la Bible peut englober plusieurs maladies de la peau, mais c'était toutes des maladies assez graves. La lèpre menait tôt ou tard à une mort lente et humiliante. Et en plus de cela, la maladie était assortie de toute une série de conséquences sociales et spirituelles. À travers cette maladie, Dieu veut pointer le doigt du doigt notre problème à nous tous d'impureté devant Dieu. L'homme, selon la Bible, bien qu'il était créé parfait, s'est rebellé contre Dieu. En décidant de vivre sans lui, en décidant ce qui est bien ou mal pour lui-même. C'est ce que nous faisons tous, n'est-ce pas? Mais à cause de la rébellion humaine, Dieu a fait en sorte que le monde ne tourne pas rond. La maladie est entrée dans le monde, la mort également. Et donc toute maladie et toute mort que nous voyons devrait nous servir de rappel de notre rébellion contre Dieu et les conséquences qui s'en suivent. Cependant, il ne faut pas se tromper. Si nous sommes malades, ce n'est pas forcément parce que nous avons péché attiré la maladie sur nous, non. Mais c'est plutôt dans un sens général. La maladie existe parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et dans la loi de l'Ancien Testament, Dieu a donné toutes sortes de commandements, de prescriptions concernant les personnes atteintes par la lèpre. Lévitique 13 et 14, si vous voulez lire ça plus tard avant d'aller au lit. Pour qu'ils soient déclarés impurs, ces personnes, et exclus de la communauté, qu'ils n'aient pas accès à Dieu. C'est comme une illustration vivante de notre problème à tous devant Dieu. Et donc, ce lépreux qui s'approche de Jésus est vraiment dans un sale état. En principe, il ne devrait même pas s'approcher des autres. Mais voilà qu'il s'approche de Jésus. Et verset 3, que fait Jésus ? Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus purifie les lépreux. Il le restaure à la vie en quelque sorte. Il enlève la barrière qui le séparait de la société et de Dieu. Et quelle autorité Jésus montre ici de purifier un lépreux ? Juste comme ça, le prêtre ne peut pas faire ça. Jésus envoie ce monsieur vers le prêtre au verset 4 pour qu'il voit que la guérison a déjà eu lieu. Le prêtre est juste comme un thermomètre. Si vous êtes malade, vous voyez avec le thermomètre si vous avez la fièvre, mais le thermomètre ne change pas la température. C'est juste constate quelle température vous avez. C'est ce que le prêtre fait. Est-ce que vous êtes pur ou pas? Il ne peut pas changer la situation. Mais Jésus lui-même, il peut rendre l'impur pur. Et cela nous donne un aperçu du monde à venir. Personne ne sera plus jamais séparé de Dieu qui a fait confiance en Jésus. Au deuxième épisode, au verset 5 à 13, nous voyons quelqu'un de très différent qui s'approche de Jésus. Au verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Cette fois-ci, la guérison a lieu à distance, comme une télécommande, à distance. Jésus n'était même pas présent auprès du serviteur. Il le guérit avec une simple parole. C'est une autorité époustouflante. Dans le monde à venir, il n'y aura plus de maladie, plus de handicap, plus de raideur articulaire. Ce sera un monde parfait. Jésus va ensuite chez Pierre, un de ses disciples dont la belle-mère est alitée avec la fièvre. On ne sait pas beaucoup au sujet de cette fièvre, mais je me dis qu'elle a dû être grave. Pour qu'une femme soit alitée comme ça, il faut un gros truc, n'est-ce pas? Pour les hommes, aux petits moindres bobos, on se retrouve au lit en train de se plaindre en disant « Chérie, je pense que je vais aller aux urgences avec une température de 38. Si jamais je meurs, je veux que tu saches que je l'aime, je t'aime. » C'est ce qu'on dit les hommes, mais pour les femmes, c'est autre chose, n'est-ce pas? Et j'en profite pour vous saluer, mesdames. Mais revenons à la belle-mère alitée avec une très grosse fièvre. Que fait Jésus? Verset 15, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Jésus enlève toute maladie, tout de suite. C'est un aperçu de ce qu'il va donner, il va faire dans le monde à venir. Un monde sans souffrance. Sans maladie. Il n'a pas promis de guérir maintenant dans cette vie. Et cela peut être très difficile, je reconnais cela. Mais ce qu'il ne choisit pas de guérir maintenant, il a promis de guérir dans l'éternité. Et dans les derniers versets de ce passage, nous voyons que le grand nombre de personnes à guérir ne lui pose aucun problème. Verset 16, le soir venu, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Imaginons s'il fait ça ici à Bruxelles, Saint-Luc, vidé, boum. Tous les patients sont dans la rue, il n'y a plus personne là-bas, les médecins sont au chômage. Jésus, il est le roi promis de Dieu. Dans ces versets, Jésus nous donne un aperçu comme la bande-annonce du royaume des cieux. Mais comment Jésus peut-il faire cela? Nous avons constaté avec la lèpre que la maladie est un symptôme du problème plus profond chez l'être humain, son péché, sa rébellion contre Dieu. Donc enlever juste la maladie ne résout pas notre plus grand problème, celui du péché. Et c'est pour cela que Matthieu termine la section avec cette citation tirée d'Ésaïe 53 dans l'Ancien Testament, verset 17. Il a fait toutes ces guérisons afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est ce que fait Jésus dans ce passage, n'est-ce pas? Il prend les infirmités des gens, il s'en charge pour les faire disparaître. Mais c'est uniquement possible car il règle notre plus grand problème, celui de notre rébellion contre Dieu. Sur votre feuillet, vous avez Ésaïe 53, les versets 4 à 6, si vous voulez juste retrouver cela, ça nous aidera. Parce que Matthieu cite ce verset, le verset 4 de ce chapitre, qui parle d'un serviteur souffrant qui va venir un jour. C'est le Messie et le serviteur souffrant, la même personne. Et nous voyons qu'il se charge de nos maladies, mais bien plus que cela, il se charge de nos péchés. Et il est puni à notre place par Dieu pour notre rébellion. Ça parle ultimement de sa mort à la croix. Lisons ces versets 4 à 6 et voyons les termes pour le péché, le châtiment et le fait que Jésus meurt pour nous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc vous voyez, oui, Jésus enlève la maladie durant son ministère public, mais c'est seulement parce qu'il va régler le problème plus profond chez l'homme, son péché, sa rébellion contre Dieu, parce qu'il meurt à la croix, pour prendre sur lui la colère de Dieu, il peut nous guérir, la maladie étant un symptôme de notre péché, notre rébellion contre Dieu. Donc du fait que Jésus soit mort à la croix, nous serons guéris un jour, entièrement. Nous aurons un nouveau corps dans le nouveau monde que Dieu va créer, dans ce monde parfait, sans souffrance, sans maladie, sans deuil. Et non seulement Jésus peut le faire, mais il veut le faire. Verset 3, vous avez vu ça, la question du lépreux, ce n'est pas « est-ce que tu peux le faire, Jésus ?» Non, c'est « est-ce que tu veux le faire pour moi ?» Et comment Jésus a-t-il répondu ?« je le veux, sois pur. » C'est une autorité époustouflante que nous voyons dans ce passage. Et cela doit changer notre façon de concevoir Jésus, n'est-ce pas? Parfois, nous pensons à lui comme quelqu'un un peu démodé, un peu vieillot, un peu dépassé par tout ce qui se passe autour de nous. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Jésus constitue le seul espoir pour ce monde, le seul espoir pour l'humanité. Il faut que nous en soyons convaincus. Afin de nous approcher de lui par la foi, le servir et parler de lui autour de nous. Mais la question se pose, si Jésus va créer ce nouveau monde parfait, qui pourra y vivre? Et ce passage répond à la question, c'est la deuxième chose que nous voyons, c'est que tous ceux qui s'approchent de Jésus par la foi vivront dans ce nouveau monde. Tous ceux qui s'approchent de Jésus par la foi vivront dans ce nouveau monde. Si Jésus est véritablement le seul espoir pour l'humanité, il est logique que ceux qui veulent vivre dans le nouveau monde doivent passer par lui. Et ce passage nous attire notre attention sur la foi du centenier. Regardez le verset 10 avec moi. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Ça n'arrive pas souvent dans les évangiles, Jésus dans l'étonnement. Et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus souligne la foi de cet homme. Si vous voulez vivre dans le nouveau monde que Jésus va créer, il faut croire en lui. Et la foi, ce n'est pas l'opposé des faits. Parfois on pense là, les faits ça relève du scientifique, mais la foi c'est plutôt l'inverse de cela. C'est plutôt lorsqu'on n'a pas de preuves, on croit des choses. Mais non, la foi dans la Bible, c'est prendre quelqu'un à sa parole. prend quelqu'un qui est digne de confiance à sa parole. Et Jésus s'est déjà montré digne de confiance. Dans cet évangile, le centenaire a sans doute entendu parler de Jésus, son ministère de guérison. Et c'est pour cela qu'il dit, tu ne dois pas venir chez moi pour guérir le serviteur, tu dois juste le dire. Et le serviteur sera guéri. Et de même, nous devons placer notre foi en Jésus. Il promet qu'il peut nous offrir une place dans le nouveau monde grâce à sa mort à la croix. Et à nous de le croire, de saisir cette promesse, de dire oui, c'est pour moi. Je veux recevoir cela. Je te fais confiance, Jésus. Si nous lui demandons, il nous pardonnera. Il nous réconciliera avec Dieu. Et donc, parce que c'est par la foi que nous entrons dans ce monde, ça veut dire que c'est ouvert à des gens de toute nationalité. Verset 11, nous voyons, Jésus parle des gens de toutes les nationalités qui vont entrer dans le royaume des cieux, des gens qui viennent de l'Orient et de l'Occident, qui seront à table dans la nouvelle création. Jésus a en tête les gens qui ne viennent pas d'Israël, d'autres pays, et donc cela nous comprend si nous venons d'un autre pays qu'Israël. Le nouveau monde est destiné à des gens comme nous. Jésus veut nous faire comprendre que les gens viendront de tous les recoins de la terre pour festoyer dans le nouveau monde. Peut-être dans votre pays d'origine, la culture n'est pas connue pour être typiquement chrétienne ou protestante. Et cela vous bloque en quelque sorte de croire en Jésus. Mais voyez-vous, la chose que Jésus veut le plus pour les Japonais, les Vietnamiens, les Iraniens, les Irakiens, les Africains, les Américains, les Latinos, les Britanniques, les Français et les Belges, c'est qu'on entre dans le royaume des cieux en mettant notre foi en Jésus. Et selon ce passage, il ne s'agit pas seulement des gens de toutes les nations, mais aussi des gens de tous les milieux sociaux. Les personnes dans l'histoire sont en quelque sorte toutes exclues de la société de l'époque. Le lépreux étant déclaré impur, n'avait pas le droit de circuler librement dans la ville. Le centenier romain travaillait pour les forces d'occupation, n'était pas juif. Et la belle-mère de Pierre était une femme, et les femmes ne jouissaient pas d'un très bon statut dans la société de l'époque. Mais Jésus s'intéresse à chacun. Il guérit chacun, sans faire de distinction sur quelque base que ce soit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de sexisme. Il n'y a pas de distinction, pas de favoritisme sur base de sa classe sociale. Jésus est venu offrir l'accès à un nouveau monde parfait par sa mort à la croix. À tous ceux qui viendront à lui, par la foi, de toute nationalité et de tout arrière-plan. Mais vous l'avez sans doute remarqué, au verset 12, Jésus nous lance un avertissement. Après avoir dit que beaucoup de non-juifs qui vont croire en lui pour entrer dans le royaume des cieux, il dit les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, il parle des juifs qui ne croyaient pas en lui, des gens à qui le royaume était promis, dans ce sens fils du royaume, dans l'Ancien Testament, mais qui ont rejeté Jésus, et donc ils ont rejeté le royaume. Et Jésus dit solennellement qu'ils n'auront pas part à ce nouveau monde parfait, mais qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mais cela ne s'applique pas seulement aux juifs qui ne croient pas en Jésus, mais à toute personne, de toute nationalité qui ne croit pas en Jésus. L'image des ténèbres du dehors, c'est l'idée d'être exclu du royaume des cieux, d'entendre le bruit de la fête, mais d'être sans possibilité jamais d'y entrer. Ce dont Jésus parle ici, c'est l'enfer. Dans les ténèbres du dehors, toute bonne chose de ce monde sera enlevée. L'amour, l'amitié, le bonheur. Nous serons abandonnés à notre désespoir. C'est l'image des pleurs. Et à notre révolte contre Dieu, l'image des grincements de dents. Ce chapitre nous met devant un choix. Il y a l'offre extraordinaire d'un nouveau monde sans souffrance que Jésus va créer, où il y a le lieu de regret, de souffrance et de châtiment éternel. Les enjeux ne pourraient pas être plus grands. Jésus est le roi envoyé de Dieu qui possède toute son autorité pour créer un nouveau monde parfait. Jésus nous a donné un aperçu de ce que cela donne, comme une bande-annonce, un échantillon de peinture sur le mur. Jésus est bien le seul espoir pour l'humanité. Qui peut faire partie de ce nouveau monde? Toute personne qui croit en Jésus. Ça veut dire que ce passage représente un appel à venir à Jésus, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je vous suggère, si c'est vous, de revenir la semaine prochaine, parce que Jésus va nous enseigner, mais qu'est-ce que cela change finalement d'être disciple de Jésus, d'en revenir la semaine prochaine avant de prendre une décision. Mais si vous avez déjà placé votre confiance en Jésus, comment ce passage devrait-il nous changer? Premièrement, cela doit changer notre façon de concevoir Jésus. Loin d'être démodé ou sans intérêt pour notre société contemporaine, Jésus est son seul espoir. Est-ce que vous en êtes convaincu? Deuxièmement, cet aperçu que Jésus nous donne de l'avenir nous encourage à nous focaliser davantage sur le monde à venir que sur le monde présent. Et surtout si vous souffrez actuellement. Mettez devant vos yeux l'échantillon que Jésus nous donne ici, la couleur qu'il y aura partout sur le mur à la fin des temps. Cela nous aidera à persévérer. Et enfin, en attendant l'arrivée de Jésus, de ce nouveau monde, qu'est-ce que nous devons faire? Je pense que la belle-mère de Pierre nous donne un bel exemple. Qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle est rétablie? Verset 15, elle sert Jésus. Elle sert Jésus. Elle a servi Jésus, son roi. Qu'avons-nous d'autre à faire de nos jours ici-bas, cette semaine, jusqu'à notre mort, en famille, au travail, avec nos amis, que de servir Jésus, notre roi glorieux, qui seul va créer ce nouveau monde parfait. Prions ensemble pour terminer. Père Céleste, nous te remercions pour cet aperçu que tu nous donnes du monde parfait à venir, que Jésus va créer. Merci parce qu'il est le seul espoir pour l'humanité, que nous en soyons convaincus. Nous te prions. Et merci pour sa mort à la croix qui rend cela possible, qui rend notre guérison un jour possible. Et nous te prions que nous puissions placer notre foi en lui et que nous puissions le servir tout au long de notre vie. Nous t'en prions en son nom. Amen.